fête de la naissance du Sauveur. Déjà, la belle crèche du portique a été démontée et rangée en attendant le prochain Noël. Tout d'abord, un peu d'histoire. La fête de 2 février est bien digne de notre attention, d'abord parce qu'elle est très ancienne. En fait, c'est une des premières fêtes instituées en l'honneur de la Sainte Vierge. Il faut chercher son origine dans le berceau du christianisme à Jérusalem. Les premiers témoignages à ce sujet viennent du IVe siècle. Un peu plus tard, on y ajoute la procession des cierges. De Jérusalem, la fête passe à Constantinople, au VIe siècle, où elle reçoit le nom de « Rencontre du vieillard Siméon et du Sauveur », titre un peu long, ou tout court, « La rencontre ». De là, elle se répand, notre fête, dans tout l'Orient, et au VIIe siècle, la fête de la rencontre est accueillie dans la capitale de la civilisation chrétienne, à Rome. Mais il faudra attendre le siècle suivant pour que cette solennité prenne enfin le nom de purification de Marie. Et cela aura lieu dans le royaume qui se targue, qui est fier d'être nommé son royaume, royaume de Marie, en pays franc, s'il vous plaît. Regnum Galliae, Regnum Mariae. Voilà pour l'historique de notre fête. Mais celle-ci est aussi mystérieuse qu'antique, à cause de 2 énigmes qu'elle contient. Celle de notre Seigneur, de sa présentation au temple, celle de Notre-Dame, de sa purification. D'où viennent ces 2 cérémonies de l'Ancien Testament, à première vue si étranges? Quel est leur but? Selon la première, présentation au temple, on devait offrir à Dieu tous les premiers-nés, soit des hommes, soit des animaux. Mais pourquoi cela? C'était en souvenir d'une nuit terrible, de la nuit où Dieu, Dieu sévère, Dieu vengeur, avait frappé de mort tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais ceux des Hébreux en avaient été épargnés. Donc, il y a une raison historique, biblique, pour instituer, pour perpétuer cette fête. Mais il y a eu un autre motif. C'était pour marquer dans les esprits que Dieu a le droit sur toute chose. En fait, les enfants sont l'avenir non seulement de la famille, mais aussi du pays. Ainsi Dieu, par les premiers-nés, prenait possession de tout le peuple d'Israël. Voilà ce qui concernait les enfants, la présentation. L'autre loi, quant à la purification, visait de son côté les mamans. Toutes les femmes devenues mères devaient se rendre au temple un certain nombre de jours après leur couche et y offrir un sacrifice pour se purifier. Jusque-là, elles étaient traitées comme des parias, personnes de seconde zone, tenues pour inférieures et impures. Jusqu'à sa purification, une nouvelle maman ne pouvait ni entrer dans le temple, ni toucher à rien de ce qui était consacré à Dieu. Et pourquoi cette sorte d'excommunication et cette nécessité de se purifier au plus vite possible? Une femme qui vient d'enfanter son premier-né s'attend plutôt à la joie, aux félicitations. Et cette loi, chers fidèles, aussi, comme la présentation, était bien à sa place, tout en restant bien humiliante. Cela montrait que chaque femme devenue mère devenait en même temps héritière d'Ève, de la mère du genre humain, héritière du triste héritage du péché originel. Condamnée enfantée dans la douleur, toutes les femmes emportaient le châtiment et la cérémonie de la purification avait justement pour but de rappeler l'existence du péché originel. La Mère de Dieu s'avance donc vers la porte du temple. L'enfant Jésus à son bras, le Saint Joseph à son côté. Elle va subir la cérémonie de la purification. Comment cela se passait-il? C'était dans la matinée, après le rite de l'encensement et l'offrande du sacrifice perpétuel, qu'avait lieu cette cérémonie. Une maman, après avoir pénétré dans la cour dite des femmes, se plaçait sur la marche la plus élevée de l'escalier. Le prêtre l'aspergeait avec de l'eau lustrale et récitait sur elle quelques prières spéciales. Très bien, mais en fait, on aimerait arrêter cette procession de trois personnes bien exceptionnelles et dire et protester. Que faites-vous là, surtout vous, Vierge Immaculée? Qui dit purification dit en même temps péché, honte, châtiment, exclusion. La Mère de Dieu, toujours vierge, conçue sans péché, l'Immaculée Conception, pleine de grâce, aurait-elle besoin d'être purifiée, lavée, blanchie? Qui, Saint d'Esprit, met du linge propre dans la machine à laver, sauf par erreur? Pourquoi donc? Tout d'abord, Notre-Dame veut à tout prix imiter son Fils. Avait-il besoin de circoncision? Elle non plus, elle n'a pas besoin de purification. De toute façon, la purification en question n'était que légale, extérieure, ne la déshonorait pas intérieurement. La Sainte Vierge n'est pas gênée d'être au milieu des femmes comme l'une d'elles. Son Fils aussi consentait d'être au milieu des pécheurs comme l'un d'eux. L'Immaculée accepte donc premièrement cette cérémonie, elle va à sa rencontre, pour notre Seigneur. Elle le fait aussi pour nous faire apprécier davantage la vertu de pureté. Si une créature si belle veut encore se purifier par impossible, pourquoi je ne fais pas grand-chose dans ce domaine? Elle nous montre les avantages de cette vertu. Elle nous assure aussi d'en être gardienne, protectrice. Marie s'élève au-dessus des brumes et des poussières d'ici-bas. Elle attire tous les yeux. On l'admire, on l'aime. On s'éprend d'amour pour cette vertu angélique qui fait son charme et sa gloire. Elle agit sur nous comme agit un idéal par sa seule vue. En se projetant, en se gravant dans notre âme et en s'imposant doucement à notre imitation. La petite Bernadette de Lourdes avait vu Marie et l'empreinte que l'on garda dans le fond de son âme l'a jetée dans le ravissement. Auprès de cet idéal, toute splendeur créée pâlissait à ses yeux. « Oh !» disait-elle, « elle était si belle. Non, rien de ce qui est sur la terre n'est beau à côté d'elle. » Si la pureté de Marie agit sur nous et nous fait aimer la vertu par sa seule contemplation, combien plus vive et plus profonde est son influence sur ceux qui ne se contentent pas de l'admirer, mais qui prient la Vierge et s'efforcent de l'imiter. car l'Immaculée est non seulement admirable, mais imitable. Invoquons-la et nous ressentirons les effets de sa protection. Marie, en effet, est notre mère, une mère toute-puissante de la toute-puissance divine et qui peut tout nous obtenir. Une mère très tendre et qui aime à nous exaucer. Mais c'est aussi une mère très sainte et qui désire, plus que nous, nous voir chastes et purs. Donc, le premier moyen de garder notre cœur chaste, ce serait de recourir à la prière, surtout prière adressée à l'Immaculée, en commençant par les oraisons dites jaculatoires, comme celle-ci, « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Prière qui est gravée sur la médaille miraculeuse que nous tous, j'espère, portons. De l'oraison jaculatoire au chapelet, chapelet quotidien, ou rosaire si l'on peut, à cette arme offensive et défensive à la fois, à laquelle, d'après Notre-Dame de Fatima, le bon Dieu donna une force spéciale qu'il n'avait pas avant. À la prière, joignons une grande dévotion envers la Sainte Vierge. Voulez-vous sortir du péché d'impureté, disait un saint, allez à Marie. Elle vous prendra par la main et vous mènera à son Fils pour recevoir votre pardon. Voulez-vous persévérer dans la vertu de pureté, adressez-vous à la Mère de Dieu. Elle vous couvrira du manteau de sa protection et tout l'enfer ne vous pourra rien. Ajoutons encore d'autres armes pour être sûr de remporter la victoire. Fréquentez souvent et dignement les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. La pénitence, il est vrai, a été instituée pour remettre les péchés, mais aussi pour nous fortifier contre les tentations. Et pour l'Eucharistie, l'un de ses effets est d'éteindre le feu de la concupiscence. Tel est ce pain d'effort, le pain des anges. Voilà les trois moyens surnaturels que chacun de nous devrait avoir dans son arsenal. Prière, dévotion à l'Immaculée, sacrement de pénitence et d'Eucharistie. À la fin, un moyen naturel, mais qu'il faut impérativement unir aux trois moyens cités. C'est de veiller sur nos sens. Veiller sur nos sens. C'est de se détourner des personnes mal habillées, piège même pour une vertu éprouvée. Mortifier notre imagination. Ne laisser jamais rouler dans notre esprit des pensées capables de nous porter au mal. Mortifier aussi nos oreilles, ne pas par exemple participer aux conversations déshonnêtes. L'objet de cette veille, la plupart des cas aujourd'hui, concerne les écrans. Pas la peine d'en dire davantage. Chers fidèles, quand nous allons tout à l'heure recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, demandons-lui de nous rendre forts dans les combats pour garder nos cœurs purs. Supplions aussi la Vierge Immaculée qu'elle garde dans nos âmes ce précieux trésor de la pureté. Demandons-le avec confiance, en se souvenant avec le Père Maximilien Marie Kolbe, que, je cite, « Je peux tout en celui qui me fortifie par l'Immaculée. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.